Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous n'avons qu'une terre se consacre aujourd'hui à un animal en voie de disparition, une espèce protégée et pourtant si emblématique de notre région, l'anguille. Pour en parler avec nous, Olivier Rollinger, qui est chef cuisinier. Bonjour chef, est-ce qu'on dit comme cela ?
Oui, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je n'aime pas beaucoup le terme chef, parce qu'il y a toujours le côté un petit peu chef adjudant, côté armée, je préfère cuisinier ou appelez-moi Olivier, tout ira bien.
Bien, alors vous êtes breton et après avoir créé votre restaurant, vous avez reçu vos étoiles ou plutôt vos toques puisque c'est le guide Goemio qui vous a récompensé au départ avant de recevoir les étoiles Michelin. Et puis vous allez à ce moment-là relancer l'amour des épices et n'oublions pas que Saint-Malo était sur la route des épices.
Voilà, c'était un des premiers ports de la Compagnie des Mers du Sud qui deviendra plus tard la Compagnie des Indes françaises. Et j'ai eu la chance de naître dans une maison du début du 18e qui appartenait à un armateur et qui justement armait donc pour l'Inde, pour l'Extrême-Orient et ramenait dans ses cales des épices. Et j'ai toujours été passionné d'aventures maritimes, de cette histoire, de cette épopée extraordinaire. Et, c'est-à-dire que début du XVIIIe siècle, on trouvait des épices évidemment de Chine, d'Inde, de la mer des Célèbres, du Moyen-Orient, mais également du Nouveau Monde. C'est-à-dire que la mondialisation des saveurs était faite, si je puis dire, dans les remparts de Saint-Malo.
Alors aujourd'hui, vous êtes devenu un des grands représentants de la cuisine française, hein, mais en même temps, vous êtes promoteur de ce métissage culinaire dont vous venez de parler un peu. Est-ce qu'on peut... nous n'avons qu'une terre, c'est un peu aussi le retour à la mondialisation globale. Donc, oui. Qu'entendez-vous par ce métissage culinaire ?
Alors, moi, si vous voulez, les épices, comme je vous l'expliquais, font partie de notre histoire, de l'histoire de la Bretagne, l'histoire de la France, l'histoire de l'Europe. C'est pourquoi sommes-nous allés à la recherche du monde, c'était pour trouver des épices, et en particulier la perle noire, le poivre. Et ensuite, faut bien comprendre... Après, évidemment, je me suis intéressé le pourquoi des épices dans toutes les cuisines du monde, et pourquoi mettions-nous finalement... cet ingrédient végétal, parce que c'est toujours de l'univers du végétal, l'épice, mais un végétal, une plante, une graine qui ne poussait pas ni dans son jardin, ni dans son champ, c'est-à-dire pas dans son territoire. Et pourtant, depuis la nuit des temps, chaque cuisine du monde intègre une épice, c'est-à-dire l'inverse, le contraire de l'aromate. L'aromate pousse sous mon climat et dans mon territoire, alors que l'épice vient de l'ailleurs. Et c'est bien pourquoi toutes les cuisines ont intégré l'épice, c'est-à-dire ce morceau de végétal qui pousse très loin, c'est-à-dire étrangère, l'autre, le différent. Eh bien, c'est un moyen aussi de combler ce besoin d'altérité que nous avons consciemment ou inconsciemment, et peut-être d'accepter l'autre, le différent. Et un petit peu comme toutes les cuisines, c'est un peu à l'encontre du locavorisme intégriste. Évidemment, je vais évidemment défendre le fait de ne pas manger une cerise à Noël ou une fraise ou une tomate tout l'hiver. Mais néanmoins, il faut faire attention parce que la belle histoire de l'alimentation, de l'humanité, bah, c'est une histoire d'échange, de partage, et que... se nourrir de l'identité de l'autre dans quelque domaine que ce soit, c'est toujours intéressant, non pas pour altérer sa propre identité, mais au contraire pour l'enrichir. s'enrichir de la différence, c'est bien ce que l'on retrouve en littérature, en architecture, en peinture, dans la poésie et évidemment dans la musique.
Alors,
et je pense que ça existe dans la cuisine, et je pense que les époques les plus sombres, comme celle du 19e dans la cuisine française, sont des époques où on se referme sur nous-mêmes, où on considère que ce qu'il y a de bon, c'est que, alors que les plus belles pages de l'histoire de la cuisine française s'écrivent avec les lumières, avec ces produits qui arrivaient d'ailleurs, ce qui était le maïs, ce qui était la pomme de terre, ce qui était la tomate, ce qui était le haricot, ce qui était l'ananas, ce qui était l'artichaut, vous voyez. Donc sans l'ailleurs, le cabas, lorsque nous allons au marché, serait bien pauvre, serait bien maigre sans l'ailleurs. Donc c'est bien ça, et les épices. Et puis en même temps, aujourd'hui, on va vers une cuisine qui est quand même nettement moins chargée en protéines animales, eh bien, il faut pimper, on dirait aujourd'hui, des céréales, des légumineuses, des oléagineux, et toutes les cuisines du monde qui font une
Alors, on l'a bien compris, donc, ouais. On va tout à l'heure parler de défense d'un animal qui est l'anguille. Il y a une action, bien sûr, qui va être locale, mais on sent que vous êtes en même temps un défenseur des échanges mondiaux. Et très rapidement, d'ailleurs, après avoir promu le métissage culinaire, vous devenez un défenseur du durable. Alors, par durable, j'entends que vous allez défendre la culture bio, le commerce équitable, et puis le défenseur des pêches. Et c'est un de vos premiers engagements, on va dire politiques, enfin vous en avez eu localement, mais un de ces premiers engagements d'ordre mondial et au niveau d'une ONG, vous entrez dans Éthique Océan.
Oui, effectivement, je défends effectivement beaucoup de choses, je suis lié avec Slow Food, je suis lié pour la défense des semences paysannes, pour les races anciennes, races animales anciennes, mais également... dans la mer. Alors pourquoi la mer? Parce que je suis né au milieu des pêcheurs, dans ce petit port de Cancale, entre Mont-Saint-Michel et Saint-Malo. Et lorsque j'étais enfant, il y avait plus d'une quarantaine de bateaux de pêche dans ce petit port, et aujourd'hui, il n'y en a plus que trois. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas ces bateaux de pêche qui ont vidé l'océan. Et je suis rapproché là, de beaucoup de scientifiques, de Jean d'Ifremer, du Muséum d'histoire naturelle, du CNRS et autres, en considérant que la science, ce n'est pas une opinion, parce qu'il ne s'agit pas de dire ceci ou cela, parce que j'aime ceci ou cela, mais... Et vous savez, les cuisinières, les cuisiniers que nous sommes tous, hein, ce n'est pas simplement les chefs étoilés, comme vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire se nourrir, nous avons besoin de deux garde-manger, le garde-manger de la terre, donc qui fait appel aux paysans et aux éleveurs, et puis évidemment le garde-manger de la mer. Et ces deux garde-manger sont extrêmement fragiles, sont souvent en danger. Et concernant les ressources halieutiques, c'est-à-dire tous les produits de la mer, liés à la pollution d'abord, mais aussi à la surpêche, il y a un vrai, vrai, vrai problème. Et je me suis rapproché de cette ONG Éthique Océan, qui avec trois bouts de ficelle, très peu de moyens, totalement indépendante, ce n'est pas une ONG qui va culpabiliser telle ou telle partie de la filière, mais au contraire qui va sensibiliser l'ensemble de la filière, des pêcheurs, aux mareyeurs, aux cuisinières, aux cuisiniers, et puis aux mangeurs et mangeuses que nous sommes tous les uns les autres.
Donc un de ces mots d'ordre, d'ailleurs, c'est bien s'informer pour mieux consommer. Donc,
Exactement. C'est-à-dire, c'est surtout pas pour mettre au pilori tel ou pas tel... parce qu'on a tous une part de responsabilité, il y a un État, il y a une situation qui est justement, je l'ai donnée en particulier pour les stocks de poissons, à la fois par les pêcheurs, mais également par les scientifiques, et au regard de ces états de stock, eh bien, nous devons prendre nous des mesures. Et une des premières mesures que j'avais pu prendre, puisque j'avais été élu par les 550 chefs dans le monde, dans 62 nationalités, reconnus comme les meilleurs chefs dans le monde, et en 2010 ou 2011, de mémoire, j'ai lancé un appel pour que nous suspendions le thon rouge à l'époque, qui était
Alors, ça a été une de vos premières bagarres.
Un de nos premiers combats, non pas contre les pêcheurs, mais en disant, écoutez, nous, on ne peut pas empêcher, on ne peut pas diminuer les quotas autorisés, mais par contre, on peut tout à fait arrêter, finalement, de les mettre à notre carte, si bien que là, on a sensibilisé à la fois les politiques sur les, et puis aussi les consommateurs. Et aujourd'hui, c'est-à-dire 10 ans après...
10 ans après, le ton est revenu.
En Bretagne, pour me féliciter en disant, allez, vous n'avez pas été très... vous avez été assez dur, mais vous avez bien fait à l'époque, parce qu'aujourd'hui, la filière thon rouge, les thons de ligne, est totalement sauvée. Et aujourd'hui, même, je fais la promotion moi-même de il faut à nouveau consommer du thon de ligne que l'on peut trouver, en particulier en Atlantique Sud. Et c'est ça, c'est quand même une belle victoire, parce que les uns les autres, nous avons géré ces stocks et nous avons... permis à cette filière de ne pas disparaître totalement.
Alors, c'était un combat qui a duré combien de temps, ça ?
Oh, ben, c'est un combat qui a duré une dizaine d'années.
Dix ans. Et on a arrêté de consommer du thon à peu près. Enfin, bon, disons que le consommateur a été sensibilisé pendant combien de temps, quoi, avant de...
Il a fallu... Si vous voulez, que lorsque vous avez à la fois les chefs de renom, vous avez tous les pêcheurs artisans... Qui en sont convaincus, ben vous réussissez à convaincre quand même la grande majorité de la population. Et ensuite, ben les quotas, évidemment, vont être drastiquement diminués. Passage pas facile quand même pour nos amis pêcheurs. Des aides quand même significatives qui leur ont été apportées à ce moment-là. Et puis depuis, ben les ponts, les stocks se sont refaits. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont encore, ils restent fragiles. Mais en tous les cas, on peut à nouveau prélever dans le garde-manger de l'océan des thons, en particulier en Atlantique Nord et en Atlantique Sud.
Alors aujourd'hui, vous êtes parti sur une nouvelle bataille hein, qui est celle de l'anguille européenne. Donc en fait, ne consommons pas momentanément de l'anguille. Et qu'est-ce que cette espèce représente
pour vous ?
Alors tout
d'abord, si vous voulez, je ne focalise pas sur une espèce ou une espèce. Il se trouve que je défends globalement une pêche durable. Et qu'est-ce qu'un poisson durable ? Je me permets de vous le rappeler, quel qu'il soit, c'est un poisson dont on connaît l'état du stock et on sait que l'état du stock est en bon état, il n'est pas effondré, on n'est pas en voie de, pas en danger. Je vais demander simplement à votre poissonnier ou au mareyeur pour le professionnel. La deuxième chose, c'est la technique de pêche, est-ce que c'est une technique de pêche intrusive ou pas. Et le troisième élément, c'est la taille.
Alors intrusive, une pêche intrusive, c'est quoi une pêche intrusive ?
Une pêche intrusive, c'est une pêche qui va occasionner des dégâts collatéraux, c'est-à-dire apporter des pêches annexes alors que vous n'êtes pas venu pour pêcher ce poisson et vous pêchez d'autres poissons et vous les rejetez à la mer parce que vous n'étiez pas venu pour chercher ce poisson-là. Il faut savoir que dans le monde, 40% des poissons qui sont pêchés sont remis immédiatement à la mer. Alors même si aujourd'hui en Europe c'est interdit, vous imaginez bien qu'il n'y a pas un officiel qui est sur chacun des bateaux
pour vérifier, bien sûr. Et sur ces 40% que vous remettez à l'eau, ils sont morts.
Ah ben bien sûr, ils sont morts. Ensuite, c'est évidemment les oiseaux ou d'autres poissons qui vont les manger, vous allez dire. Mais c'est quand même, quand on parle de la faim dans le monde, et comme quoi nous n'avons pas assez de nourriture, si jamais on ramenait demain 40%, la totalité du poisson, déjà, on aurait un apport de protéines absolument considérable et on en aurait presque trop. Quoi. Vous voyez, et les pêches intrusives, quand je parle des pêches douces, c'est en particulier de la ligne, du pélagique et autres, par rapport à des pêches de drague, de chalut de fond, qui eux peuvent occasionner effectivement des dégâts sur l'ensemble de l'écosystème et de l'environnement.
Alors, on va quand même parler de l'anguille, même si ce n'est pas le seul poisson que vous défendez. Donc, cette anguille européenne, donc aujourd'hui, se trouve menacée.
C'est-à-dire depuis 20 ans, les scientifiques, et en particulier le CIEM, alors juste, c'est le Centre international pour l'exploration de la mer, hein, ce ne sont pas des écolos intégristes, hein, c'est 1600 scientifiques qui depuis 20 ans disent qu'il faut absolument extrêmement limiter la pêche de l'anguille. Et depuis 2 ans, ces mêmes scientifiques nous disent qu'il faut stopper la pêche de l'anguille. Il faut stopper l'anguille adulte, comme le juvénile, c'est-à-dire les civelles ou pibales que l'on aime appeler.
Alors, on va justement écouter une petite remarque qui vient d'un de... Alors, ce n'est pas un scientifique, ça vient des personnes qui contrôlent plutôt la pêche et qui s'étonnent justement du fait que les civelles ou les pibales, c'est-à-dire les petits alevins d'anguilles, on reprendra le cycle tout à l'heure, peuvent être pêchés et d'une manière absolument anormale.
Ce qui est assez surprenant pour l'anguille, c'est que pratiquement on a le droit de le pêcher de façon, je dirais, presque extraordinaire par rapport aux autres poissons. Elle est pêchée du 1er janvier au 31 décembre. Normalement, on ne pêche pas la levaine d'un poisson et par dérogation, on pêche la civelle qui est la levaine de l'anguille. Bon, normalement, on pêche pratiquement pas la nuit. La civelle ne se pêche que la nuit. On ne se sert pas de lampe la nuit pour attirer le poisson. Pour la civelle, c'est un principe bien connu, il faut une lampe pour attirer les civelles. Partant de là, on peut dire que l'anguille, aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose pour la protéger.
On se dirige sur la zone où on pense trouver des civelles. Lorsqu'on est rendu sur cette zone, on met les tamis à l'eau. Et puis on fait ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. On embraye, on pousse. Donc on va faire... des traits de 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Parce que plus on va pousser longtemps, plus la civelle risque d'être stressée dans le fond des tamis.
Alain Lavigne, pêcheur professionnel, pêche depuis plus de 30 ans ses bébés anguilles dont raffolent les Espagnols et les Chinois et qui se revendent à prix d'or. Mais la pibale se fait rare. Hein.
La civelle étant une espèce sensible, il est sûr et certain qu'il faut qu'on fasse attention à ce qui est fait à l'heure actuelle au niveau de la pêche. Nous sommes des gens qui quotidiennement, jour et nuit, sommes sur l'eau. Nous sommes des veilleurs, des concierges, des gens qui en permanence, on sait s'il y a 20 ou 30 cm d'eau de plus que la veille, ainsi de suite. On connaît notre milieu, on connaît nos zones. On est en étroite collaboration avec le CEMAGREF sur des pêches expérimentales, sur l'esturgeon ou autre. Enfin, disons que la profession est responsabilisée et véritablement elle fait de la co-gestion avec tous les gens qui peuvent être intéressés véritablement par ce qui se passe sur l'eau, dans le milieu et sur les espèces.
Face à la surpêche et à la disparition de l'espèce, les pêcheurs suivent les conseils des scientifiques et s'organisent. Parmi eux, Pierre Elie étudie la civelle depuis 20 ans.
Ah, c'est beau ça,
joli. Regarde ça.
C'est superbe, le mouvement de l'opercule, regarde ça.
On peut avoir une disparition complète.
Ouais. C'est chouette. Hein. Mais alors, il y a des individus qui sont marqués là. Visiblement, ils ont reçu des coups, ils sont battus. C'est une espèce qui est pleine de mystères, donc entretenue par les grands scientifiques. Pline disait qu'elle se reproduisait dans les entrailles de la Terre. Aristote, plus près de nous, disait qu'elle se reproduisait en se frottant au rocher. Enfin, tout ça n'existe pas. Hein. On a une espèce qui a une reproduction dans la mer des Sargasses. C'est une espèce qui est commune à l'ensemble de l'Europe. Et c'est une espèce qui est maintenant menacée.
Alors, vous venez de les entendre. Peut-être des choses ont-elles déjà changé ?
Bah, c'est-à-dire que c'est une espèce qui n'est pas menacée, elle est en voie totalement d'extinction. C'est-à-dire que c'est plus menacée. Elle était menacée, on pouvait dire qu'elle était menacée il y a 20 ans, mais là, depuis 2 ans, elle est en état d'extinction d'urgence. C'est-à-dire qu'elle est plus en danger que la baleine à bosse ou le panda. Est-ce que vous mangeriez aujourd'hui de la baleine ou du panda ? Non, bah, c'est exactement la même chose. Juste un chiffre. En 1980, lorsque vous aviez 100 civelles qui arrivaient sur les côtes de France, parce qu'il faut savoir que la grande majorité des civelles arrivent en France. C'est étonnant, mais c'est comme ça. C'est une chance, mais évidemment, les prédateurs sont là.
Et les prédateurs, c'est surtout les braconniers.
Alors, oui, c'est les braconniers, mais je vais dire que les prédateurs, ce sont celles et ceux qui ne prennent pas les mesures pour, à minima, mettre des quotas sur l'anguille elle-même, et encore plus, le pêcheur, le monsieur là qui contrôlait, là, le disait très justement, c'est le seul espèce de poisson qui, alors à l'époque, était menacé, aujourd'hui est totalement en danger, sur lequel il n'est pas interdit de prendre les juvéniles. Vous pensez bien que toutes les espèces de poissons, lorsqu'une espèce de poisson est en danger, on leur dit, bah, déjà, vous ne commencez pas par prendre les petits. Et pour revenir à mes civelles, il y a, en 1980, lorsqu'il y en avait 100 qui arrivaient sur les côtes de France, aujourd'hui, il en arrive 6.
Et alors ça, vous l'expliquez de quelle manière, justement?
Ah ben là, je l'explique. Alors, y a, évidemment, il ne faut pas mettre tout sur le dos des pêcheurs. Je veux dire que la fois les infrastructures que nous avons pu mettre, à la fois dans les estuaires, dans les remontées d'eau, dans les rivières, dans les ruisseaux et autres, comme on a asséché des zones humides également.
Le dragage des fonds aussi. Oui. Le dragage des fonds.
Le deuxième facteur, c'est évidemment la pollution humaine, la pollution de l'industrie, de l'agriculture, de chacun d'entre nous, les plastiques, les PCB, tous les polluants, les perturbateurs endocriniens et autres. Évidemment, et c'est vrai, je pensais bien que moi, en Bretagne, je peux vous dire que nous, ce que l'on rejette sur le littoral avec la prolifération d'algues en putréfaction, je veux dire que c'est un vrai, vrai problème, en particulier des élevages intensifs. Mais la pêche et surtout la surpêche, c'est évident. Alors, vous allez dire, les pêcheurs, ils ont diminué en France. Oui, c'est vrai. Le nombre de pêcheurs a été divisé par deux. Il y a eu des aides, divisé par deux. Mais par contre, les chiffres, la cibelle, la pêche a augmenté de 35% et la pêche de l'anguille a été multipliée, écoutez-moi bien, par 15.
Et pourtant, il n'y en avait presque plus.
Oui, le nombre d'anguilles. Parce que c'est un marché extrêmement lucratif et plus elle devient rare et plus elle devient chère. Donc plus le marché est intéressant et plus... Alors, la pêche officielle, parce que de toute façon, comme il n'y a pas de quota, c'est le seul poisson menacé sur lequel il n'y a pas de quota. Donc on se demande quels intérêts ils peuvent servir. Vous voyez, c'est très trouble, si je puis dire.
C'est très trouble, mais en même temps, on sait que tous les ans, on assiste encore à des procès et on prend encore des gens qui font du commerce illégal. Et on a effectivement, comme vous le dites, une espèce de surenchère dans la mesure où on en a de moins en moins et où on a un commerce illégal un peu comme sur la corne de rhinocéros ou d'éléphant.
Oui, sauf que le rhinocéros ou l'éléphant sont des espèces protégées par l'État. Or, l'anguille ne l'est pas.
Et donc, c'est votre travail. Vous essayez de faire en sorte qu'elle le soit.
Moi, j'essaie de faire en sorte qu'au niveau de l'État... Quand on pense aujourd'hui, le gouvernement français, le ministère des Pêches, demande à ce qu'on autorise l'augmentation de la pêche des civelles de plus de 12%. Non, mais, là, on marche sur la tête, quoi. C'est-à-dire que c'est parce que il existe maintenant des périodes en particulier de pêche. On autorise des périodes de pêche pour la civelle, et on autorise, mais on l'interdit pas au moment où elle arrive. Donc évidemment.
Alors justement, on n'a pas évoqué le cycle de l'anguille. Donc pour nous, c'est familier, mais essayons de. Alors elle part. Alors il y a peut-être aussi quand même une chose que vous n'avez pas du tout évoquée, qui est peut-être une des causes aussi de disparition parmi toutes celles que vous avez évoquées, qui est le réchauffement climatique. On sait que l'anguille se laisse porter par des courants. Et sait que les courants marins ont été modifiés aussi par le réchauffement.
Il y a sûrement un impact qui n'est pas encore totalement... Si vous voulez, les scientifiques, ils nous disent, lorsque l'on pêche et on prélève, là, l'impact, il est direct, on le sait. Maintenant, l'impact, effectivement, que vous évoquez du dérèglement climatique, avec en particulier des courants qui pourraient évoluer et partir plus vers le sud ou vers le nord, ça, c'est une chose. Mais il n'y a pas aujourd'hui d'études... sérieuse et indépendante qui nous permet réellement de pouvoir l'affirmer. Par contre, la surpêche et le prélèvement en direct, ça c'est immédiat. Vous voyez. Alors, je veux juste vous rappeler, parce que pourquoi l'anguille, qui pourtant ressemble à un serpent, qui n'est pas très beau, c'est pas, on va dire, c'est justement, c'est pas comme un panda, c'est pas comme une baleine, c'est pas comme un dauphin. Non. Donc les gens, au départ, s'y intéressent un petit peu moins. Et pourtant, c'est un animal extraordinaire. Extraordinaire, pourquoi? D'abord parce qu'à l'inverse du saumon, qui lui va aller se reproduire en altitude dans le haut des rivières, dans le tout début des ruisseaux, l'anguille, elle va aller se reproduire dans la mer des Sargasses. Alors elle va être capable de vivre à une altitude incroyable dans les montagnes, comme aucun autre poisson. Il lui faut 15 ans pour obtenir une maturité sexuelle, et ensuite qu'à 15-20 ans, elle va descendre de sa rivière ou de son étang, elle va passer l'estuaire, elle va prendre des forces là, elle va pouvoir plonger jusqu'à 600 mètres de profondeur et faire 6000 km pour aller se reproduire dans la mer des Sargasses. C'est une aventure extraordinaire. Elle va se reproduire là-bas et après s'être reproduite une seule fois, elle meurt. C'est pour ça que c'est une espèce très fragile aussi. Vous vous rendez compte qu'il lui faut 15-20 ans, elle va se reproduire une fois, elle meurt. Là, il y a les petits alevins qui vont, des petites larves, puis qui vont arriver sur les côtes françaises. Ce sont des bébés anguilles, ce qu'on appelle les civelles. Là, c'est ravissant, elles sont blanches, tout ça. Et elles arrivent là. Et puis, elles vont un peu... Vous voyez, en plus, c'est quand même un animal qui est un peu comme le saumon aussi, mais c'est quand même magnifique. C'est-à-dire qu'elle a à la fois l'altitude, elle a la pression à 600 mètres de profondeur, elle a la pugnacité, elle a l'effort pour aller se reproduire dans cette mer des Sargasses. Et puis là, elle va changer donc de l'eau douce à l'eau de mer encore une nouvelle fois, et elle va arriver, elle va remonter petit à petit, elle va être d'abord jaune, et puis ensuite, quand elle va vraiment grandir, après 10-12 ans, elle va devenir, on appelle, l'anguille noire argentée. Voilà.
Alors, on sent votre passion pour ce poisson et ouais. On sent à quel point vous pourriez nous en parler encore longtemps. Mais on va être obligé bientôt de nous quitter. Et donc, il faut qu'on parle un peu de la région. Alors, la région de Palavas, puisque là, c'est surtout cette région que Nous n'avons qu'une terre est diffusée. La région de Palavas fut une grande région de l'anguille. On y pêchait de quoi réempoisonner pratiquement tous les étangs d'Europe. Aujourd'hui, on se trouve, comme partout, dans un état extrêmement difficile. Il y a encore une centaine de professionnels, d'ailleurs, sur toute la côte Languedoc-Roussillon qui travaillent qui vivent de ce poisson, de cette pêche, mais comme vous dites, complètement en disparition. Et de toute façon, tout ce qui pêche part à l'étranger, part en Belgique ou part de toute façon dans des tas d'autres pays, et très peu en France. Alors, il y a ici une tentative quand même pour essayer de conserver un petit peu ou de remettre l'anguille un peu léger. Il ne faut pas, en gros, que les gens du coin perdent l'habitude de l'anguille. Alors, vous en pensez quoi dans votre campagne de protection?
Tout d'abord, il faut les protéger parce que vous parlez de... Moi, vous savez, la première espèce en danger, pour moi, ce sont les pêcheurs artisans. Donc, c'est surtout pas contre les pêcheurs lorsque je me lève. Parce que je travaille avec beaucoup, beaucoup de pêcheurs, en particulier des pêcheurs bretons et beaucoup normands. Et on a évidemment toutes ces discussions-là. Ce qu'il faut, c'est réussir à limiter des pêches pendant des périodes données pour que les populations puissent se renourrir et pour avoir une population qui puisse se reproduire et perdurer. Alors, vous me dites, oui, mais si par rapport à la tradition... la tradition de ce pays, c'est de manger de l'anguille. Alors, vous me dites, c'est paradoxal, parce que vous me dites que la grande majorité partent à l'étranger. Donc, il faudrait peut-être réapprendre à manger l'anguille.
Oui, c'est un peu la question que je vous ai posée, c'est-à-dire comment ne pas perdre, hein, parce que...
ne pas perdre la tradition, c'est surtout pas perdre les anguilles. Donc, avant tout, en fait, il faut absolument sauver l'anguille et peut-être faire des pêches ponctuelles. Limiter peut-être pour juste d'ailleurs une consommation locale pour valoriser et faire revivre cette tradition. En réalité, ce que je demande, moi, c'est que ce pays qui est le vôtre et qui est magnifique et qui évidemment jouit d'un écosystème extraordinaire entre la mer et la terre, il faut d'abord que ces produits profitent aux habitants et se limiter à cette consommation locale. Dans un premier temps. Ensuite, lorsque les populations ont pu se refaire, puisqu'on aura limité la pêche, à ce moment-là, on pourra peut-être imaginer l'adresser à l'export. Mais si on veut qu'une tradition perdure, il faut surtout que le produit ne disparaisse pas. Parce que, et le produit disparaissant, évidemment, la première victime, c'est le pêcheur.
Alors, votre intervention est tout à fait juste dans la mesure où non seulement il faut qu'on réglemente cette pêche et qu'on la protège davantage, mais en plus, il y a aussi tous les milieux locaux qui sont à revoir, c'est-à-dire qu'on a endigué, on a bétonné et bien sûr, les villes se sont étendues, donc il y a de plus en plus de pollution et l'anguille elle-même est menacée aussi par tout cela puisqu'il n'y a plus de continuum entre la circulation de l'eau de mer et la circulation des étangs. Et on a ici une tentative notamment de remise en état des étangs pour qu'on retrouve tout cela. Enfin bon, se posent d'autres problèmes qui ne sont peut-être pas les vôtres, mais qui tout cela est un peu quand même en synergie, puisque pour l'instant, sur Palavas, on ne sait pas où mettre la vase qu'on retirerait des étangs. Alors ce que je voudrais dire, d'abord vous remercier pour l'action qui est menée, et puis dire que il y a deux manières ici de fêter l'anguille. Il y a effectivement ceux qui la mangent, c'est ce qui se passait à Sète la semaine dernière, où on avait 1000 convives qui essayaient, qui réapprenaient à manger l'anguille. Et puis, à Palavas, pendant ce week-end, samedi, de 10h à 12h, les enfants sont invités à trouver et à revivre le chemin de l'anguille. Donc là, ils vont réapprendre ce qu'est ce poisson, ce qui est aussi une manière, bien sûr, de s'informer avant de consommer. Alors, vous avez aussi, on sait que l'anguille n'a pas pu jusqu'à présent, enfin, ou difficilement, elle résiste assez à l'aquaculture, bien qu'on soit actuellement en train peut-être d'en trouver le secret. Mais vous envisagez, vous travaillez sur un projet de conserverie aussi sur Palavas. Il s'agirait de quoi exactement? Et on va conclure là-dessus.
Si vous voulez, d'abord sur l'aquaculture, je suis très méfiant parce que le fait, aujourd'hui, énormément d'élevages se trouvent en particulier aux Pays-Bas et on envoie des civelles vivantes aux Pays-Bas. Et ce qui justifie, ce qui permet de donner bonne conscience à ceux qui pêchent ou qui autorisent la pêche de la civelle. Or, et tout ça pour repeupler d'autres rivières d'Europe. Ça, c'est vraiment se donner bonne conscience parce que tous les scientifiques disent que justement ce repeuplement ne fonctionne pas. Ça, c'est première chose. Maintenant, pour ce qui est de la fête, effectivement, il faut la faire, la fête de votre... parce que ça fait partie totalement de votre culture. Il faut fêter la sauvegarde de l'anguille. Il faut fêter le fait que aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il fallait sauver cet animal emblématique de votre région. Donc, on fasse une fête, d'ailleurs, en dégustant peut-être quelques anguilles pour se rappeler le goût, mais en attendant de stopper la pêche pour l'export et de dire que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, les choses iront mieux. C'est ça, fêter l'anguille. Et moi, je vous invite toujours à la fêter. Regardez ce qui s'est passé sur l'Adour. Il n'y a plus de saumon, évidemment. Il y en a très peu, la pêche l'année dernière. Mais néanmoins, lorsque vous allez sur Bayonne, on fête toujours l'histoire du saumon et de sa pêche, et ce qu'il incarne et ce qu'il représente. Donc, je pense que l'anguille est à Palavas ce que le saumon est à l'Adour. Oui, il faut...
Et alors, ce projet de conserverie, c'est quoi, alors?
Alors, la conserverie, écoutez, pourriez-vous imaginer que demain, nos amis japonais fassent une conserverie de baleines pour faire de la rillette de baleine au Japon? Vous l'achèteriez, vous? Non, vous seriez absolument scandalisé. Ou pourquoi pas une rillette de panda chez nos amis chinois? Ce serait absolument scandaleux. Donc, on ne peut pas imaginer que demain, Palavas puisse être représenté et incarné par une conserverie de rillettes d'anguilles, c'est-à-dire d'une rillette d'un animal totalement en voie d'extinction. Je pense que ce serait un message extrêmement négatif. Et en tous les cas, on se chargera de faire la contre-publicité oui, parce que là, c'est vraiment un massacre d'une espèce en voie d'extinction et qui, pourtant, l'emblème en partie qui incarne totalement la tradition de votre belle région.
Mais je vous remercie beaucoup, Olivier Rollinger. Je pense qu'on aura l'occasion, sans doute, de reparler de l'avancée de votre combat. Merci à vous et à bientôt.
Merci à tous. Et en espérant que demain, nous puissions encore nous régaler de la mer. Et je suis sûr que plein de cuisinières et cuisiniers nous écoutent là. et subir qu'on peut aussi travailler d'autres produits que l'anguille. Il y a plein de poissons qui sont pêchés par nos pêcheurs et nous avons oublié ou n'avons pas l'idée de les consommer.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.